Bonsoir à toutes et à tous, on est nombreux en studio. Il est 20h47, vous écoutez Fréquence Protestante au 100.7 FM et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de SAS Discoute, l'émission de toutes les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Et ce soir, nous avons du neuf pour vous. Soyez attentifs, car nous allons parler du nouveau rapport d'orientation avec les principaux acteurs de ce document. Et en seconde partie d'émission, nous recevrons la présidente de la commission qui est à l'origine du carnet d'aventure, tout beau, tout neuf, qui vient de sortir de l'imprimerie.
Et pour réécouter l'émission en podcast ou suivre notre actu, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook « Ça se discute ». Et n'oubliez pas que l'émission recherche toujours de nouveaux bénévoles pour enrichir ses programmes. Alors si toi qui nous écoutes tous les mois, si tu rêves de connaître l'envers du décor, contacte-nous sur notre mail sasdiscoute@eudf.org.
Les 25 et 26 janvier dernier, c'était l'Assemblée Générale du Scoutisme en région parisienne. Alors, à moins que vous soyez parti au Pôle Nord en hibernation, il y a peu de chances que vous soyez passé à côté de l'info. C'est le moment pour les EUDF de débattre, d'échanger, de parler, de se confronter, bref, de faire avancer le mouvement. Lors de cet AG, les unionistes en ont profité pour dévoiler le nouveau rapport d'orientation. Il est donc l'heure d'introduire nos invités de cette première partie d'émission. Préparez-vous, ils sont nombreux.
Avec nous ce soir en plateau, nos 5 invités, ils ont tous contribué au rapport d'orientation. Alexis, le vice-président de l'association, Jeanne, Adèle et Louise, responsables Louveteau et Clés en Ile-de-France et à Toulouse, qui sont aussi rédactrices du rapport, et Paul, ancien EUDF, qui est revenu spécialement pour relire le contenu. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
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 Alors, première question, qu'est-ce que c'est que ce rapport d'orientation et comment il a été construit ? Alexis.
Alors donc en fait, en tant qu'association, nous avons en tant qu'association d'éducation populaire, nous avons un projet éducatif qui fixe les grandes orientations du mouvement et toute association qui fait de l'animation a ce projet éducatif. Puis aux Éclairs unionistes, nous avons à côté de ça un rapport d'orientation qui va fixer à plus court terme les enjeux pédagogiques, politiques de notre association. Et c'est autour de ce texte, le projet éducatif sur le long terme et le rapport d'orientation à plus court terme, que les animateurs et animatrices vont construire des projets pédagogiques. Concrètement, le projet pédagogique, ça va être toutes les séries d'ambitions éducatives qu'on va transmettre aux enfants à travers des jeux, des activités, etc. Donc c'est vraiment, entre guillemets, la colonne vertébrale des éclaireurs unionistes qui est repensée à travers ce rapport d'orientation en complémentarité avec tout un tas d'autres engagements que nous avons déjà.
Et comment avez-vous fait pour l'établir ?
Alors, là-dessus, on a été assez novateur par rapport à ce qu'on faisait au préalable. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous avons une large consultation à travers le congrès, donc qui était un rassemblement en 2018. Nous avons tiré au sort à cette occasion une quinzaine de personnes issues de la diversité de notre association, des responsables Louveteau, éclaireurs, aînés venant de différentes régions, etc., qui avaient comme objectif d'écrire une proposition de rapport d'orientation. Donc on a fait un choix par en bas, entre guillemets, d'aller tirer au sort ces personnes. Et puis ensuite, nous avons proposé à tous les adhérents de l'association, ça c'était à partir de septembre 2019, de pouvoir déposer des amendements en partant du texte écrit par ce groupe qu'on a appelé le groupe des super-héros, de pouvoir déposer des amendements pour enrichir, compléter, critiquer le texte qui ensuite a été discuté à l'occasion du conseil d'administration du mois de novembre et enfin voté à l'Assemblée générale du 25 et 26 janvier. Et donc tout ça, c'est intéressant parce que c'est aussi les éclaireurs unionistes, espace d'éducation à la démocratie, qui souhaitent, à travers ce texte, expérimenter aussi des nouvelles façons de faire, et notamment avec cette proposition assez radicale du tirage au sort, en considérant que chaque animateur, enfin chaque bénévole de l'association était à même d'écrire un texte structurant pour les activités proposées sur le terrain.
Et alors du coup, vous avez été tiré au sort. Je m'adresse aux filles là qui sont, on n'a que des filles qui sont rédactrices. Il y avait évidemment aussi des hommes. L'idée c'était de représenter un peu toutes les branches et tous les du mouvement. Comment ça s'est passé ce travail entre vous ? Et surtout première question, est-ce que pourquoi vous aviez envie de vous porter bénévole à ce tirage au sort ?
Bah, du coup, on était tirés au sort, donc on n'avait pas trop le choix. Enfin, on avait quand même le choix au congrès de décider de ne pas être tirés au sort. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses sur lesquelles on ne serait pas forcément porté volontaire si jamais il y avait eu des désignations de personnes. Et du coup, de se faire tirer au sort, ça nous a fait travailler dans une équipe qu'on n'avait pas du tout choisie, mais avec d'autres personnes qui venaient plein d'horizons différents. Donc on a commencé par... Il y a eu un gros travail sur le congrès pour faire ressortir, selon les gens, les valeurs qui leur tenaient à cœur à défendre dans le mouvement. Et après, on a travaillé aussi par téléphone et par Drive. Et ensuite, on s'est réunis deux week-ends à Paris pour avoir des vraies sessions de travail ensemble qui ont été beaucoup plus efficaces que les appels téléphoniques.
Donc là, c'était Jeanne de Toulouse qui parlait. Les filles, je me tourne vers Louise et Adèle. Est-ce que...
Bah, du coup, c'était d'être tiré au sort. Oui, effectivement, ça nous amène à travailler sur un projet pour lequel on ne se serait sans doute pas proposé autrement. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment... Enfin, je ne me serais pas proposé s'il y avait eu une élection ou quoi. Et ça m'a vraiment permis... ça m'a fait découvrir... Qu'est-ce que c'était que d'avoir, entre guillemets, le pouvoir de décider et d'inscrire en fait ce qu'on voulait, même si on a travaillé en fait à rendre compte de la parole de chacun. Mais...
Et combien de temps a duré ce travail et ces discussions entre vous ?
Ben, on a commencé en novembre 2018, du coup, c'est là qu'on a été tiré au sort, ça a été lancé. Et on a présenté nos travaux au CA de juin en 2019. Et après, il y a eu la période d'amendement et ça a été voté à l'AG en 2020.
Et alors, qu'est-ce que c'est les obstacles que vous avez pu rencontrer pendant toutes ces réunions et tous ces échanges ?
Ce qui a été compliqué, déjà, c'était de se retrouver, puisque on venait tous d'assez loin, donc de discuter. Et en fait, on s'est retrouvés à la fin à être que quatre aux dernières réunions, parce que c'était très compliqué de se retrouver.
Après, le plus dur, je pense, c'était déjà de saisir à quoi servait leur représentation, parce qu'on n'avait pas forcément entendu parler, même si on était responsable dans le mouvement, et de réussir à dégager les grandes valeurs qu'on voulait transmettre par ce rapport d'orientation. Donc pour ça, on a utilisé diverses techniques entre des sondages qui ont été faits auprès des bénévoles, de nous, ce qu'on entendait dans nos unités, et choses comme ça, et puis de nous, personnellement, ce qu'on voulait défendre. Et la deuxième partie très compliquée, c'est de se mettre d'accord sur la définition des mots, qui nous ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps comment est-ce qu'on définissait des mots tout simples comme même spiritualité ou engagement ou ces mots qu'on retrouve dans le rapport d'orientation. Et on a passé des heures à choisir chaque virgule et chaque mot qui ont ensuite été repris au CA et qui ont ensuite été repris en amendement. Mais c'était très intéressant, ces espaces de discussion.
Donc c'est bien joli tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les aînés ? Qu'est-ce que ça va changer pour les éclés ou les responsables ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Du coup, nous, on a choisi, ce qu'on a remarqué en discutant quand on a construit le rapport d'orientation, c'est que les responsables ne saisissaient pas forcément des textes. Et donc, nous, on a choisi de faire un autre support, donc le jeu, qui permet aux responsables de créer leur projet d'année, mais aussi aux aînés au projet de région, de créer leur projet en fonction avec ce jeu de cartes qui les oriente, toujours en lien avec le rapport d'orientation.
Alexis ?
Là où il y a eu quelque chose de particulièrement audacieux, en fait, c'est que d'habitude, un texte de rapport d'orientation, c'était un texte, voilà. Et là, en fait, ils sont arrivés avec une déclinaison à travers un jeu qui n'était pas du tout anticipé et que nous, en tant que membres du bureau et du conseil d'administration, on a découvert le jour J de la présentation. C'est aussi ça, l'intérêt du tirage au sort, c'est qu'il y a cette innovation qui est assez majeure, qui est vraiment intéressante en termes d'appropriation, parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont mis très fortement en avant sur ce défaut d'appropriation. C'est-à-dire que c'est facile de voter des discours en tant que bureaucrate du scoutisme, etc. C'est autre chose de le mettre en application et que nos animateurs et animatrices puissent se l'approprier. Et cette proposition, vraiment, me semble, à ce titre-là, particulièrement intéressante.
Alors, du coup, c'est très intéressant, effectivement. Donc, on comprend bien que c'est le procédé qui est vraiment innovant et que ça a pu créer de l'émulation et pas mal de nouvelles formes pour discuter. Sur tous ces thèmes du rapport que sont, donc je le rappelle, l'engagement, la résilience, le vivre ensemble, le développement du savoir, l'écologie, la démocratie participative, expérimenter, la spiritualité et l'ouverture, qu'est-ce qui est nouveau fondamentalement dans ce rapport ? Est-ce que vous avez des exemples concrets ?
Je pense qu'on a beaucoup insisté sur l'écologie, parce que dans le rapport d'orientation précédent, qui datait de 2008, si je ne me trompe pas, on parlait beaucoup de développement durable. Et c'est des notions qu'on n'a pas voulu, enfin qu'on a voulu reprendre, mais les mettre plus à jour. Et du coup, quand on parle de vivre ensemble, de résilience, d'expérimentation, des trucs comme ça, c'est vraiment dans une perspective écologique, mais sur différent que le développement durable. Après, dans le rapport d'orientation, on a aussi parlé du coup des rapports hommes-femmes et de la coéducation. Et c'est des choses qui étaient présentes dans le mouvement, mais il n'y avait pas forcément non plus de texte officiel sur le sujet qui affirmait la volonté du mouvement d'accepter tout le monde, quelle que soit son identité de genre et quelle que soit son et de renforcer l'égalité homme-femme et au sein de ses activités.
Donc on a redéfini le mouvement et la manière dont il se positionne par rapport à l'égalité des genres et sur l'écologie essentiellement aussi. Oui, Paul, tu veux dire quelque chose?
Oui, une des nouveautés de ce rapport d'orientation, c'est qu'il va mettre sur le même plan beaucoup de notions. Là où le précédent affirmait les choses de manière peut-être plus dirigée et restreinte. C'est-à-dire qu'on avait quatre piliers, la spiritualité, l'écologie, le scoutisme et le dernier m'échappe, et la paix, voilà. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus
On a perdu la paix, alors.
On a beaucoup plus de notions. Et les mettre toutes à égalité, ça va probablement dessiner une nouvelle façon de faire du scoutisme qu'on ne connaissait pas avant.
D'accord, donc Paul, juste pour clarifier, Paul a participé à la relecture du rapport. C'est pour ça qu'effectivement, il a le point de vue d'avant et d'après. C'est pour ça qu'on est venu le chercher, justement. Alexis ?
On n'a pas perdu la paix, mais on a mis de la paix sur tout un tas d'endroits. Et typiquement, quand on va parler d'égalité des genres, on va être dans de l'éducation à la paix. Quand avant, on était peut-être dans des couloirs de nage, où maintenant, on va diluer ces différents items. Voilà, et c'est là où on va aussi avoir une innovation politique et institutionnelle.
Ok. Jeanne, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, parce que la particularité de ce rapport d'orientation, c'est que des sept notions que vous avez déployées avant, il y a plein de mots qui se rattachent et que chaque mot, en fait, peut se rattacher à plusieurs notions. Donc, tout est transversal. Et l'idée, c'est de faire un peu un domino des mots qui nous rassemblent, qui se rattachent à différentes valeurs.
On a compris qu'effectivement, le sens des mots était très important et qu'il fallait bien être d'accord pour se comprendre.
Alors, Louise, vous avez travaillé sur des amendements. Toi, tu en as proposé un. Il a été intégré dans le rapport. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était cet amendement ?
Bonsoir. On a travaillé avec plusieurs responsables de ma région sur des amendements, notamment sur les questions d'écologie. Et en fait, c'est vrai que, comme vous disiez, le sens des mots est très important. Et donc, c'était beaucoup sur trouver les mots justes pour faire passer nos idées qui font partie de qui font face à des défis qui sont quand même très importants aujourd'hui et en fait nous je trouve que pour nous en tant que responsables ça a été vraiment une opportunité de s'approprier le texte parce que alors moi personnellement le héros d'avant je l'avais lu quelques fois ou pendant les formations, mais je me l'étais pas vraiment approprié. Et là, de pouvoir même avoir des micro-débats avec d'autres personnes dans tout le mouvement de l'autre côté de la France, c'était vraiment vraiment sympa. Et puis on suivait du coup où ça en était, quels amendements avaient des soutiens, des likes et tout. Et c'était vraiment une vraie façon de se l'approprier.
C'est un exemple d'amendement que vous avez proposé et qui est passé dans le rapport ?
Alors comme ça en tête, je saurais... Non, malheureusement, là, j'ai rien en tête parce que c'est des histoires de formulation, mais désolée.
Quelqu'un a une idée ou un...
Alors le problème, c'est que Louise est probablement la plus grande contributrice, donc je pourrais pas vous dire un mot en particulier. Mais c'est vrai que c'est particulièrement important et pour rester sur des exemples concrets, c'est la première fois qu'aux Éclairs unionistes, on a un texte qui parle de justice climatique, enfin d'enjeux climatiques, quand avant on parlait de défense de l'environnement. Et donc ça va être aussi toutes ces évolutions lexicales qui veulent dire des choses aussi pour parler à nos jeunes responsables, pour adapter nos mots politiques à l'ordre du jour actuel et concret.
Ok, et je me tourne vers Paul, parce que donc une fois les amendements qui ont été traités, il y a eu la relecture du rapport qui a été confiée à une équipe, dont Paul, tu faisais partie. Est-ce que tu peux nous dire en quoi a consisté cette relecture rapidement ?
Alors, il y avait bien sûr la correction de quelques fautes, une formulation pas très heureuse. Et en fait, ce que disait Louise assez... Jeanne Louise,
non, mais c'est Louise. Vous avez travaillé combien de temps, Jean?
Non. Ah, c'est justement, c'est que chacun avait à cœur de proposer sa bonne formulation. Et mais du coup, ce qui est vrai dans le groupe de Louise n'est pas forcément vrai 10 kilomètres plus loin. Et le travail d'arbitrage, c'était de dire, entre toutes ces propositions, quel est le mot qu'on va retenir, qu'est-ce qu'on va mettre en valeur plus qu'autre chose.
Ok, donc du coup, un bel effort de communication et à l'intérieur et à l'extérieur pour le mouvement. Ce serait la phrase de fin. Merci Adèle, merci Jeanne, merci Alexis, merci Louise, merci Paul d'avoir été avec nous. Tout de suite, on fait une petite pause musicale qui annonce doucement le printemps. Écoutez, ça se discute, l'émission des EEUDF sur Fréquence Protestante au 100.7 FM, et c'était la chanson Le temps est bon d'Isabelle Pierre, revisitée par Bon Entendeur. Merci à la fille de Catherine de nous l'avoir fait écouter.
Il est 21h03, c'est l'heure de retrouver l'actu du scoutisme avec Paul.
Bonsoir Catherine, bonsoir Julie, bonsoir à tous et à toutes. On commence ces actualités en quatre mots: grandir et faire grandir. C'est le slogan qui a été présenté lors de l'Assemblée Générale en 2020 et qui rythmera la communication et la visibilité des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France dans les années à venir. Samedi dernier, nous étions le 22 février et comme vous le savez, le 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme. Les fondateurs du scoutisme Robert et Olaf Baden-Powell sont tous les deux nés à cette date célébrée dans le monde entier. Une occasion de penser aux autres éclaireurs et éclaireuses en ce jour si spécial qu'est le Thinking Day. Le Grand Kiff 2020, c'est le rassemblement des jeunes protestants de toute la France et il vous attend. Les inscriptions sont ouvertes sur le site legrandkiff.org. On vous le rappelle que cet événement aura lieu à Albi du 29 juillet au 2 août 2020 et est organisé par l'Église protestante unie de France en partenariat avec les EEUDF. Et on termine avec le Jamboree européen qui va avoir lieu en Pologne en 2020. Une formation est organisée pour toutes les unités participantes et elle aura lieu lors du week-end des 8, 9 et 10 mai 2020 et se tiendra quasiment simultanément dans toute la France, dans plusieurs lieux. C'est une bonne occasion pour rentrer en contact avec le reste de la délégation française qui compte près de 5000 membres et c'est la plus grande délégation internationale de l'histoire du scoutisme français.
Merci Paul pour ces informations. J'en profite pour vous partager un petit coup de cœur. Ça fait un bon petit moment maintenant que j'anime l'émission en parlant de scoutisme principalement et d'écologie ou de féminisme ici ou là. Ce mois-ci, j'ai justement envie de mettre en lumière une action écolo sur Paris à laquelle je vous invite à participer. Il se trouve que le 15 mars prochain, le célèbre activiste Rob Greenfield, qui s'est fait connaître pour avoir traversé New York avec ses 60 kilos de déchets sur le dos, qui sont la production moyenne de déchets d'un Américain en un mois seulement, vient à Paris. Il a décidé de participer à une Plastic Attack. Ce Rob Greenfield a justement inspiré le costume du mouvement Plastic Attack France. Et là, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que c'est qu'une Plastic Attack exactement? Et c'est là que je vous invite à aller réécouter notre podcast du mois de juin 2019, où on avait reçu Fanny, la présidente de Plastic Attack France. Mais pour faire court, c'est une action pacifique qui prend place dans les supermarchés au cours de laquelle les bénévoles invitent les clients à se déplastifier, c'est-à-dire à se défaire des emballages inutiles dans le supermarché, qui est normalement tenu par la loi de gérer ses déchets. En gros, c'est une action de sensibilisation à la surproduction de plastique dans notre monde. Inutile de vous rappeler à quel point le plastique est néfaste pour notre environnement ou notre santé. Je vous invite donc à aller regarder la page Facebook de Plastic Attack pour en savoir plus et participer à l'événement. On me dit dans l'oreillette qu'ils sont en plus à la recherche de personnes motivées pour l'organisation. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'y serai.
Et tout de suite, on enchaîne avec Scout de Bureau, la nouvelle chronique qui décrypte les décisions institutionnelles de l'association.
Je vais vous en dire un peu plus sur ce qui se passe avec les foulards blancs. Vous savez, celles et ceux qu'on appelle le national, qui, comme vous et moi, sont des personnes engagées, les membres de commission, du conseil d'administration, de l'équipe nationale. On vous décortique ce qui se fait dans ces instances.
Ensemble, on est mieux. On a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu.
Le mois dernier avait lieu l'Assemblée Générale, cet espace de vie démocratique et de construction pour l'association. Lors de cette AG 2020, de nombreuses décisions et votes ont été faits. Ce soir, je vous parle de la gouvernance. Puisqu'on a déjà vu ensemble à quoi ça correspondait, maintenant on se penche sur les décisions qui ont concrètement été prises. C'est désormais l'occasion de passer en phase expérimentale des choix proposés, histoire de tester les réflexions qui ont été faites. Avant tout, il y a le choix déjà partagé lors de l'AG 2019 de déconcentrer l'échelon national. Et si beaucoup de personnes engagées au niveau national ont conscience et agissent pour et avec le local, et que dans les engagements locaux on cherche à construire et échanger avec le national, l'idée de cette déconcentration est de généraliser la pratique et rendre définitivement plus accessibles ces échelons pour l'un et l'autre. On aura donc un échelon national organisé en 5 ressourceries réparties sur des zones géographiques définies. Le mot actuel utilisé pour parler de cette déconcentration, c'est le mot « ressourcerie », dans le sens d'un espace de ressources, pour les régions et les groupes locaux, que ce soit des ressources matérielles, pédagogiques, de support ou humaines. Et justement, qui sont les personnes qui peuvent être engagées en ressourcerie? Eh bien, c'est les personnes actuellement engagées à l'échelle nationale. Par exemple, les membres de commission, les groupes de travaux, mais c'est aussi un espace pour des personnes pouvant porter des projets. Exemple, le projet Caribou, ou d'autres projets, des envies spécifiques et tout ce qui reste à inventer pour l'association. Et donc, pourquoi pas, par exemple, des référents et des référentes, ça se discute en ressourcerie, par exemple. Sans être un nouvel échelon, c'est un nouvel espace, une nouvelle manière de permettre au local, au régional et au national de travailler ensemble.
C'était donc la rubrique Scout de Bureau, animée par Roxane. Merci Roxane, tu nous décryptes à chaque émission les décisions institutionnelles de l'association et ce soir le concept des ressourceries.
Et alors juste avant, on va écouter une petite chanson fraîchement composée, spécialement pour le nouveau carnet d'aventure autour de la promesse Louveteau.
Aujourd'hui je prononce ma promesse. J'ai choisi un jeu, j'ai choisi un lieu. Je ne promets pas de faire des prouesses, mais d'essayer de faire toujours de mon mieux. Les enfants de l'âme te encarrés se sont réunis et vont m'écouter. Près de moi ma reine ou bien parrain tiennent mon épaule en geste de soutien. Je promets de faire de mon mieux pour respecter notre loi, notre charte, connaître Jésus, aider les autres. Et la dernière phrase, je l'ai choisie comme un secret qu'on ne dit qu'aux amis. C'est quelque chose d'important dans ma vie. Je ferai de mon mieux pour cela aussi. À mon foulard, j'ai fait un nœud carré. J'ai mis ma chemise bleue et ferrée, le signe des oreilles de loup dressées, signe de promesse dans le monde entier. C'est peut-être la première fois que je m'engage et fais ce choix-là, de dire qu'à la meute je me sens bien, qu'avec elle je veux faire un bout de chemin. Avec l'aide de toute la meute, je promets de faire de mon mieux pour respecter notre loi, notre charte, connaître Jésus, aider les autres. Et la dernière phrase, je l'ai choisie comme un secret qu'on ne dit qu'aux amis. C'est quelque chose d'important dans ma vie. Je ferai de mon mieux pour cela aussi. La loi et la charte seront ma boussole, que la meute m'aidera à porter. Ma promesse sera une luciole qui éclairera mes pas et mes pensées. J'écouterai parler de Jésus-Christ, d'humilité, pardon, amour ou joie, pour réfléchir à ce en quoi je crois, ce qui donne du sens à ma vie. Avec l'aide de toute la meute, je promets de faire de mon mieux pour respecter notre loi, notre charte, connaître Jésus, aider les autres. Et la dernière phrase, je l'ai choisie comme un secret qu'on ne dit qu'aux amis. C'est quelque chose d'important dans ma vie. Je ferai de mon mieux pour cela aussi.
Alors franchement, vous venez de rater une ambiance en studio incroyable. Tout le monde fredonnait cette chanson, c'est de la magie dans l'air. C'était la chanson « Ma nouvelle promesse » composée et chantée par Marie-Pascale Delrieux, que nous avons justement en ligne au téléphone ce soir pour aborder notre dernier thème, le nouveau carnet d'aventure.
Ce soir, cette année, on va le retrouver dans le sac à dos des enfants et nous avons eu envie de vous parler de ce qu'il y a de nouveau. Je sais qu'on est à la radio et que vous ne le voyez pas, mais croyez-nous, les dessins sont nouveaux et ils sont vraiment top. Saluons au passage le travail de la jeune et talentueuse illustratrice Cécile Barnéhoud qui les a créés. Marie-Pascale est avec nous ce soir pour en parler. Elle est responsable de la commission branche cadette dans le mouvement. Elle a participé à l'élaboration des chansons et du carnet d'aventure. Bonsoir Marie-Pascale.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors Marie-Pascale, dans ce nouveau carnet d'aventure, donc il y a les 5 buts du scoutisme qui sont représentés par des territoires d'animaux. Apparemment, ils ont changé par rapport à l'ancienne version. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors c'est pas les 5 buts du scoutisme qui ont changé, c'est plutôt les territoires des animaux.
D'accord.
Et en fait, on a re-réparti les territoires des animaux en faisant le lien avec les 5 buts du scoutisme et en même temps en faisant le parallèle avec les domaines de développement de l'enfant qu'on retrouve aussi dans l'éducation nationale ou dans tous les thèmes de l'éducation. Et ces 5 domaines de développement, c'est le développement psycho-affectif qu'on a rapproché du développement de la personnalité par rapport au but du scoutisme, le développement le développement corporel avec Bagheera, le développement psychosocial avec Ricky. La débrouillardise, c'est le développement psychomoteur manuel et le développement cognitif, qui était très important aussi pour Baden-Powell, qui regroupe aussi le rapport à la spiritualité.
Alors, si on rentre dans les coulisses de la réalisation du carnet, est-ce que tu peux nous expliquer qui a planché sur son contenu et comment vous avez fait pour le créer ?
Alors, en réalité, si on remonte dans l'histoire de ce carnet d'aventure, il a plus de 30 ans. C'était la commission branche 4-dettes avec Isabelle Marc, à l'époque, qui avait travaillé sur la première mouture du carnet d'aventure. Et avant nous, il y avait une commission branche cadette déjà qui avait travaillé sur le rafraîchissement de ce carnet. Et le travail de notre commission, dont je suis responsable aujourd'hui, ça fait à peu près 3 ans. Donc on a nous 3 ans équipe là pour aboutir à ce carnet rafraîchi.
Et alors avant ça, l'ancienne version datait de quelle année ?
C'est le début des années 90.
Ah oui.
Fin des années 80.
Donc ouais. Ça a commencé à dater un peu, effectivement.
Oui.
Et pour les pistes, alors, qui sont les projets personnels réfléchis et réalisés par les Louveteaux et les Louvettes, les pistes ? Il paraît qu'il y a des changements aussi.
Alors, jusque-là, les pistes, on les finalisait avec la réalisation d'un ce qu'on appelait un chef-d'œuvre. Et donc on était dans l'acquisition de savoir-faire et aujourd'hui on s'est dit que c'était aussi important pour nous, aux éclairionnistes, de développer aussi des savoir-être et des savoir-penser. Et la réalisation d'une piste ne sera pas forcément matérialisée par un objet concret, mais ça peut être aussi d'apprendre, par exemple, à prendre la parole dans un conseil. Si par exemple, ben, je suis un peu timide et que je veux apprendre à être plus à l'aise ou à participer à la vie du groupe et à plus prendre la parole, ben, ça pourrait être une piste. Et là, je vais développer un savoir-être et ce sera autant valorisé qu'une réalisation technique.
Et alors, pourquoi avoir créé une chanson pour la promesse ?
D'abord parce que c'est émouvant comme moment et que la musique c'est quand même un support qui touche à l'émotion aussi. Notre but c'était aussi d'aider les responsables et les enfants les responsables à expliquer ce qu'est la promesse, les enfants à s'approprier ce qu'est la promesse, à dédramatiser un peu. Et du coup, ça peut être utilisé pour expliquer ce qu'est la promesse et pour en parler. Ça peut être aussi utilisé au moment de la promesse, si les enfants le souhaitent, comme moment à partager. Voilà.
Et est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples ? Alors, tu as donné l'idée de la piste de prendre la parole pendant un conseil. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui ont bougé ?
Ben, en fait... je peux pas vous donner un exemple de piste parce que dans ce qu'on apporte dans ce carnet-là, c'est justement qu'on va pas choisir une piste prédéterminée, mais qu'on va plutôt faire le point sur où on en est et qu'est-ce qu'on souhaite apprendre. C'est vraiment de revenir à la progression personnelle et en fonction de déterminer sa propre piste. Donc dans le carnet d'aventure, il y a des idées très pratiques et effectivement, il y a des listes d'idées de pistes. Mais toute la démarche de ce carnet, c'est cette idée de progression personnelle, de se dire, ben voilà, moi aujourd'hui je sais faire ça et j'aimerais apprendre à faire ça. Et pour l'apprendre, eh ben je le ferai en réalisant ça ou en prenant part à ça. Ou, voilà.
Et alors du coup, concrètement, quel genre de conseil une Louvette ou un Louveteau va trouver pour son prochain week-end ou son prochain camp ?
Y en a beaucoup. ça va dépendre du coup des domaines de développement. Avec Fiber, il va y avoir Fiber, c'est la débrouillardise. Ah. Il va y avoir des conseils sur comment faire son sac qu'il y avait déjà avant, mais qu'on a réparti dans les nouveaux territoires. Sur comment lire une carte. Avec Ricky qui représente le développement plutôt social, on va avoir des conseils pour s'exprimer de manière non violente, pour médiatiser, pour mener une médiation en cas de conflit. Voilà, ça va être tout aussi divers et varié que ça.
Auparavant, les meutes marines, elles avaient un carnet spécifique à leur projet, et désormais, vous avez tout réuni dans un seul et même carnet. Pourquoi vous avez fait ce choix ?
On a fait ce choix parce que on trouvait ça dommage que les enfants aient pas tous le même carnet, qu'ils soient de meute marine ou de meute terrestre. On a fait aussi ce choix parce que on se disait que des meutes terrestres pouvaient faire le projet, pouvaient faire des projets marins et que ils auraient le support déjà clé en main, et il y avait vraiment une volonté de se rassembler et en même temps de mettre en avant notre diversité.
Alors, je me tourne vers les gens qui sont en plateau avec nous là ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le nouveau carnet d'aventure ? Est-ce que, alors Jeanne, tu as l'air de hocher la tête, est-ce que tu peux nous dire si tu as eu le temps de le parcourir ou pas encore, et est-ce que tu en as pensé ?
Bah, je l'ai feuilleté à l'AG du coup. Et même si d'un côté ça fait un peu étrange de voir de nouveaux graphismes par rapport à ce qu'on a connu quand on était enfant, ça a l'air d'être, enfin c'est quand même un super chouette, c'est quand même un beau livre. C'est chouette aussi d'avoir fait des pages pour les enfants dyslexiques pour leur faciliter la lecture. Au niveau inclusion, je trouve ça super. Et bah après on retrouve quand même les différents territoires avec les différents animaux et bah ça va être super chouette pour plein d'enfants qui vont arriver ensuite.
Et alors justement, est-ce que je me retourne vers Marie-Pascale, pardon, mais est-ce que tu as des conseils à donner aux responsables pour qu'ils s'approprient ce nouveau carnet d'aventure ?
Alors le premier conseil, c'est de ne pas hésiter à faire appel à leurs équipiers régionaux ou directement à la commission branche cadette pour demander des éclaircissements ou des conseils ou des renseignements. Et nous, de notre côté, on travaille à un jeu de plateau qui pourra être utilisé dans des temps de formation pour les responsables, mais aussi qui sera adaptable pour des temps de jeu dans la meute et qui permettent justement de s'approprier le carnet d'aventure et de le découvrir. Et au travers de cette découverte du carnet, de découvrir la pédagogie de la branche cadette unioniste.
Et ce jeu, il pourrait être disponible quand ?
Fin 2020. C'est notre objectif.
Alors, les parents de Louvette et de Louveteau peuvent-ils le lire avec leurs enfants et est-ce qu'ils peuvent l'utiliser à la maison ?
Alors, ça va dépendre de chaque enfant et des parents, parce qu'il y aura des enfants qui vont préférer avoir leur jardin secret. D'autant plus que dans ce carnet d'aventure, il y a toute une partie journal de bord où ils peuvent écrire leurs aventures. Mais c'est aussi quelque chose qui est important pour nous, la coéducation, et qu'on a essayé de permettre au travers de ce carnet. Il y a vraiment des références à ce qui peut se passer en dehors aussi. Par exemple, avec Irénée, qui est sur le développement cognitif et donc la réflexion, il y a une page de prévention pour les connexions en réseau et on y fait référence aussi parce qu'on peut continuer à faire des pistes qu'on a commencé à la meute, on peut les terminer à la maison. Donc oui, ça peut être aussi un lien et pour les responsables et pour les enfants et pour les parents vis-à-vis de ce que l'enfant peut vivre et apprendre à la meute.
Et alors pour le mouvement, est-ce que vous pouvez nous donner des infos pratiques ? Comment on peut obtenir et acheter ce nouveau carnet d'aventure ?
Alors il vous suffit de vous connecter sur eudf.org, d'accéder à la boutique du mouvement et de commander votre carnet d'aventure.
Et pour quel prix ? Une voix enregistrée, pardon, mais c'était très bien joué. Et c'est quel prix ?
Et c'est quel prix ?
C'est 5 euros.
Voilà.
Après, il y a des meutes qui font le choix d'acheter le carnet d'aventure et qui le mettent dans le budget de leur année. Donc, ça dépendra des groupes locaux.
Alors, on voit que ce nouveau carnet est très riche. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux nous dire à son sujet ?
Peut-être juste revenir sur la démarche de création de ce carnet d'aventure. Et signaler que tous les changements qui ont été apportés ont été vraiment nourris des réflexions et des discussions qu'on a pu avoir, la commission branche cadette, avec des responsables, avec des équipiers régionaux, avec d'autres cadres nationaux, et remercier du coup toutes les personnes qui ont permis que ce projet aboutisse.
Super, bah on vous remercie absolument tous. C'est un très bel objet, donc vous pouvez aller acheter sur le site eeudf.org. Merci Marie-Pascale d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à Adèle, Alexis, Louise, Paul, Jeanne et Marie-Pascale d'avoir participé à cette émission. Merci à Paul et Roxane pour leur chronique et surtout à Catherine de m'avoir accompagnée. Merci à Emmanuel à la technique. C'est la fin de Ça se discute. Nous, chers auditeurs, on se retrouve lundi 23 mars pour une émission spéciale autour de la Journée internationale des droits des femmes avec des invitées éminentes et inspirantes. Attention quand même à noter le changement d'horaire. On se retrouve désormais à 21h au 100.7 FM. Tout de suite, la suite de vos programmes sur Fréquence Protestante.